vous réveiller en compagnie de Sophie Delpont pour le journal. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Placés en état d'alerte maximale face à l'épidémie de Covid-19, Paris et la Petite Couronne vont voir les cafés et les bars fermés à partir de demain. Les restaurants resteront ouverts à condition d'appliquer un protocole sanitaire renforcé. Précision à suivre avec Anne-Laure Jumet.
Devant la cour d'assises spéciale de Paris, le procès de l'attentat de Villejuif s'ouvre à partir d'aujourd'hui.
Sid Ahmed Glam est le principal accusé de la mort d'une jeune professeure de fitness en 2015 dans sa voiture sur un parking. Précision à suivre avec Anne Fauquemberg.
Des bombardements intenses se sont poursuivis une grande partie de la journée d'hier sur la capitale arménienne du Haut-Karabakh.
Alors que l'escalade du conflit avec l'Azerbaïdjan est entrée dans sa deuxième semaine, reportage sur place de notre envoyé spécial Claude Bruyot dans ce journal. Et puis la Nouvelle-Calédonie a voté pour le maintien dans la République française lors du référendum hier à 53%. Ce sera d'ailleurs l'objet de la question du jour, Guillaume.
Eh bien oui, la question du jour, elle portera effectivement sur le référendum néo-calédonien. On verra dans quelle mesure ce référendum marque une situation particulière sur l'île. Nous sommes en compagnie de Benoît Trépied, anthropologue chargé de recherche au CNRS et spécialiste donc de la Nouvelle-Calédonie.
Paris et la Petite Couronne sont donc placés en état d'alerte maximale face à la progression de l'épidémie de Covid-19. Les bars et les cafés vont y fermer à partir de demain pour une quinzaine de jours. Les restaurants, eux, pourront rester ouverts mais avec un protocole sanitaire renforcé. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors que sait-on de la mise en application de ces mesures ?
Alors la fermeture des bars est acquise, effectivement, ce qui a déjà fait réagir les présidents des organisations patronales du secteur qui parlent de catastrophe économique et de risque pour les jeunes qui vont se retrouver dans des appartements exigus, sans contrôle. Satisfaction en revanche du côté des restaurateurs qui vont pouvoir rester ouverts en zone d'alerte maximale avec un service se terminant à 22h. Ça s'applique donc à Paris et Petite Couronne, mais aussi dans les zones qui avaient été placées en alerte maximale la semaine dernière, Aix et Marseille. Une autorisation conditionnée, vous le disiez, à l'application d'un nouveau protocole sanitaire proposé par la profession et validé hier par le Haut Conseil de Santé Publique. Les engagements pris sont les suivants. 1,50 m entre chaque table, un nombre limité de clients sur une même table, un carnet où sont recensées les coordonnées de ces clients pour les contacter en cas de besoin, ainsi que l'obligation de payer à table, des règles qui s'appliqueront donc en zone d'alerte maximale, mais aussi en zone d'alerte renforcée.
Et d'autres restrictions ont été annoncées aussi hier soir dans ces deux zones, Anne-Laure.
Oui, de nouvelles règles qui s'appliquent aux universités avec des salles et des amphithéâtres remplis à 50% de leur capacité au maximum. Cela doit être mis en place demain, alors qu'on a vu ces images d'amphis bondés et que la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait déjà fait état d'une situation catastrophique dans les facs. Et puis dans les entreprises, le télétravail est plus que jamais encouragé pour éviter la circulation du virus, ce qui fait d'ailleurs craindre aux restaurateurs, on y revient, de perdre de la clientèle le midi.
Merci Anne-Laure Jumet en direct ce matin sur France Culture. Dans ce contexte de reprise de l'épidémie, le port du masque obligatoire dans les crèches depuis le 18 septembre dernier reste en vigueur, alors que beaucoup de parents s'inquiètent des conséquences pour le développement des tout-petits. Tara Schlegel a recueilli le témoignage de Laura Aknin, maman d'une petite fille de 7 mois qui dépend d'une crèche du 20e arrondissement de Paris.
Ça m'a rendue folle de colère. En fait, c'est deux choses. Ça m'a rendue folle de colère parce que j'ai trouvé ça fou. Que ça passe comme si c'était quelque chose de normal, voilà, juste on annonce. Et ça m'a rendue aussi stupéfaite que, personne ne dise rien du tout. Oui, Sacha, toi aussi, t'es stupéfaite. Ça m'a rendue stupéfaite de voir que personne ne pensait que ça allait avoir des résultats négatifs sur les enfants, que voilà. Ouais. Sacha va à la crèche tous les jours, et donc ça veut dire que tous les jours, pendant le maximum de temps où elle est éveillée, elle voit des gens masqués tout le temps. Et pour moi, c'est pas acceptable. Enfin, je pense que le risque que les enfants ne réagissent pas bien au masque, à long terme, est pire que la probabilité d'attraper le Covid. C'est de la même manière que dans les restaurants, on se dit, la santé économique de notre pays est importante, donc les gens vont pouvoir enlever leur masque au restaurant. On sait qu'il y a un risque, mais ça, on le laisse faire. Et donc, pour moi, la santé mentale, psychique... du développement des enfants est tout aussi importante, donc on devrait également faire une exception dans les crèches et ne pas avoir de masque pour les professionnels.
Les conséquences du port de masque obligatoire dans les crèches, ce sera l'objet du dossier du journal de 18h ce soir sur France Culture. La Nouvelle-Calédonie a décidé de rester au sein de la République française. C'est le résultat du référendum hier sur l'accès à la pleine souveraineté de l'archipel du Pacifique. 53% en faveur du non, 47% en faveur du oui à l'indépendance. Comme il y a 2 ans, lors de la première consultation, la Nouvelle-Calédonie a donc voté contre l'indépendance. Mais le résultat est beaucoup plus serré qu'en 2018, au point que, même si le non à l'indépendance l'a emporté, il y avait quand même un sentiment de victoire dans le camp des indépendantistes, Stéphane Robert.
Le résultat du référendum hier a un peu plus encore galvanisé le camp indépendantiste. Le score de près de 44% en 2018 avait déjà réveillé leur espoir de voir un jour la Nouvelle-Calédonie s'émanciper de la tutelle française. Les presque 47% d'hier ont encore renforcé cette espérance. Les indépendantistes ont le sentiment qu'une dynamique s'est enclenchée et qu'à l'occasion d'un troisième référendum prévu d'ici 2 ans par les traités, le résultat pourrait s'inverser et le oui à l'indépendance pourrait l'emporter. Il n'y a évidemment aucune certitude et c'est précisément à cette incertitude qu'a tenté de répondre Emmanuel Macron hier. Il a pris la parole dès le résultat connu, il en a appelé au dialogue entre indépendantistes et loyalistes, mais aussi avec l'État français. Il faut désormais envisager tous les scénarios, a dit le président de la République, que le non reste majoritaire, mais aussi que le oui puisse l'emporter. En tout cas, il faut préparer la suite parce que, quel que soit le résultat d'une éventuelle troisième consultation, rien n'est prévu après. Le traité de Nouméa de 1998 ne prevoit comme échéance que ces 3 consultations populaires, rien d'autre. Et donc, si le choix est l'indépendance, comment ça se passe? Comment se déroule la transition? On ne sait pas. Même chose, si c'est le non qui l'emporte à nouveau, il n'y aura plus de perspective pour le camp indépendantiste et ça pourrait encore une fois faire naître des tensions et de la violence. Il apparaît donc indispensable de discuter pour préparer la suite, ce qui sera délicat et difficile car le sentiment d'euphorie qui depuis 2 ans a gagné le camp indépendantiste n'est pas vraiment de nature à favoriser le compromis et la discussion.
Stéphane Robert.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Le procès de l'attentat de Villejuif s'ouvre à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Oui, il s'agit du 2e grand procès de terrorisme islamiste de cette année en France, après celui des attentats de janvier 2015, toujours en cours. Sid Ahmed Glam est le principal accusé aux côtés d'une dizaine de complices. Le 19 avril 2015, sa tentative d'attentat contre une église à l'heure de la messe avait échoué, mais son périple armé avait rencontré le chemin d'Aurélie Châtelain, professeure de fitness de 32 ans, tuée dans sa voiture, Anne Fauquemberg.
Originaire de Caudry dans le Nord, le 19 avril 2015, Aurélie Châtelain est en région parisienne. Elle suit un stage de pilates dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle. Retrouvée assassinée dans sa voiture à Villejuif à 8h20, les enquêteurs font très vite le rapprochement avec Sid Ahmed Glam, connu des services de renseignement comme islamiste radical. Cet homme, originaire de Saint-Dizier en Haute-Marne, est arrêté le matin même à Paris où il a une chambre étudiante. Blessé à la jambe, c'est lui qui appelle les secours. Il évoque d'abord un règlement de compte, puis au cours de son interrogatoire, il confirme s'être tiré lui-même dans la cuisse lors de la tentative de vol du véhicule de la victime. La police a retrouvé dans son véhicule et son logement parisien un véritable arsenal, plusieurs kalachnikovs, des pistolets, des munitions et des gilets pare-balles. Avec la saisie du matériel informatique et téléphonique, tout converge pour le confondre dans ce meurtre et dans ce projet d'attentat raté, téléguidé par le groupe État islamique.
Le suspect persiste à accuser un complice de la mort d'Aurélie Châtelain, Anne Fauquemberg.
Interrogé pour la dernière fois en 2019, Sid Ahmed Glam affirme que c'est Sami Amimour, l'un des 3 kamikazes du Bataclan, qui a tué Aurélie Châtelain. Selon lui, les 2 hommes se seraient donné rendez-vous sur un parking à Villejuif pour préparer l'attentat contre le lieu de culte, mais seul l'ADN de Glam a été retrouvé sur l'arme du crime. Pour la défense d'Aurélie Châtelain, cette référence au kamikaze prouve que la jeune femme est la première victime des attentats du 13 novembre et que ce procès, loin de passer au second plan, prend une dimension édifiante, d'autant plus que le terroriste sera présent.
Le procès doit durer jusqu'au 6 novembre prochain. Près de Londres, la découverte d'un camion avec à l'intérieur les corps de 39 migrants vietnamiens avait profondément choqué l'opinion publique il y a un peu plus d'un an. Le procès d'une partie des responsables de ce camion s'ouvre aujourd'hui. Des dizaines de personnes ont également été arrêtées en France et en Belgique, alors qu'un procès a eu lieu au Vietnam il y a quelques semaines. Plus de précisions dans le journal de 8h sur France Culture. Des bombardements intenses se sont poursuivis une grande partie de la journée d'hier dans la capitale arménienne du Haut-Karabakh, alors que l'escalade du conflit avec l'Azerbaïdjan est entrée dans sa 2e semaine. Sur le terrain, la présence de combattants syriens envoyés par la Turquie est toujours autant dénoncée du côté arménien. Reportage de notre envoyé spécial Claude Brouillot.
Les chaînes arméniennes ont beau passer régulièrement des vidéos de combattants syriens dans leurs journaux télévisés entièrement consacrés au conflit dans le Haut-Karabakh, tout le monde sait ici que ces images ont été tournées ailleurs que sur la ligne de front avec l'Azerbaïdjan. Malgré tout, les soldats arméniens savent que ces Syriens sont dans le camp juste en face. Caro, un tireur d'élite, assure qu'il les a régulièrement dans son viseur.
Mais ce sont des Syriens, tout le monde le sait. Ce ne sont pas des hommes, mais des combattants drogués. Je suis tireur dans l'artillerie, je les vois, ils ne se protègent même pas. Par exemple, sur 100 d'entre eux, 3 seulement vont se protéger, ce sont des robots.
Avéré est même quantifié aux alentours de 800 hommes, la présence de combattants syriens aux côtés des forces azerbaïdjanaises ne semble pas effrayer les soldats arméniens du Haut-Karabakh. Mais à travers cette insistance à rappeler leur présence, pourtant très minoritaire dans les effectifs azéris, s'insinue l'idée que ce conflit pour un territoire serait aussi un affrontement entre deux religions qui ont cessé de cohabiter ici il y a 30 ans.
Claude Bruyot, envoyé spécial de France Culture dans le Haut-Karabakh. Donald Trump, atteint par le Covid-19, a brièvement salué ses partisans hier depuis sa voiture à l'extérieur de l'hôpital. Le président américain a passé tout le week-end hospitalisé en pleine campagne pour l'élection présidentielle. Camille Magnard, il reviendra sur la place notamment de Mike Pence dans cette campagne marquée par la pandémie aux États-Unis dans sa revue de presse internationale à 7h35 sur France Culture. Au moins 4 personnes sont mortes en France et en Italie après des crues d'une ampleur inédite pour les Alpes-Maritimes ce week-end. 2 jours après les pluies diluviennes, les pompiers recherchent toujours 20 personnes dont la disparition a été signalée. On y reviendra dans le journal de 8h sur France Culture. Le temps, de la pluie sur une très large majorité du territoire dès ce matin, à l'exception du pourtour méditerranéen, des Alpes et de l'Alsace où le soleil est annoncé dès le lever du jour. Les températures sont comprises entre 6 et 16 degrés ce matin avec 6 degrés à Grenoble, 10 degrés à Lyon, 12 degrés à Paris, 13 degrés à Nantes et Marseille, maximum 16 degrés, ce sera pour Ajaccio.